Cette fois-ci, la cloche est venue comme une délivrance à la bourse de New York. Le mur d'écran qui affiche d'ordinaire les succès insolents des valeurs technologiques n'était hier soir qu'une longue suite de dégringolades. Un plongeon qui conclut une semaine noire, moins 25%, une baisse constante sur tout le mois d'avril. Certains analystes parlent déjà de krach boursier qui s'étendrait bien sûr à toutes les places financières.
Et c'est bien ce qui s'est passé, un extrait du journal de France 2 du 15 avril 2000, la chute de Wall Street et l'éclatement de la bulle Internet. Justement, c'est de cette bulle dont on parle aujourd'hui dans Zoom Zoom Back. Bonjour Gilles Babinet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes entrepreneur, co-président du Conseil National du Numérique. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont « Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet » aux éditions Odile Jacob. Vous faites partie des premiers Français à avoir tenté l'aventure du net à la fin des années 90. Vous avez connu l'éclatement de la bulle, donc en l'an 2000. Vous allez nous raconter tout ça. Mais d'abord, Gilles Babinet, vous faisiez quoi, vous, en l'an 2000?
Alors, bah écoutez, moi, je suis assez emblématique de cette affaire, puisque j'ai vendu une société vraiment toute fin 99.
Et au bon moment, alors.
Mais j'ai eu la mauvaise idée de placer tout cet argent dans des entreprises technologiques, et donc j'ai perdu la totalité de l'argent. À tel point que je n'avais même pas gardé de quoi payer les impôts sur la plus-value.
Mais non.
Et donc, il m'a fallu 6 ans... Pour
vous remettre de ça.
Mes impôts que je devais de toute façon.
Oh, l'an 2000, mon Dieu. Une délicieuse bouffée de nostalgie s'empare de nous lorsqu'on songe au balbutiement d'Internet et de ceux qui l'utilisaient alors. Écoutez plutôt. Oui, nous sommes en l'an 2000 et c'est Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, qui tente de se connecter à sexycorner.com, l'ancêtre de Pornhub. C'était long, c'était bon et ça faisait... 10 minutes pour réussir à se connecter, auquel vous ajoutez encore 7 minutes, et vous obteniez ce deuxième son iconique.
Ah ?
Que reste-t-il de ces années d'innocence, Quentin ? C'était quoi l'an 2000 ? Quels étaient nos espoirs, nos craintes dans ce monde d'avant le 11 septembre où certains croyaient encore à la fin de l'histoire ? Maintenant que Pornhub est fermé, sexycorner.com peut-il renaître de ses cendres ? Zoom Zoom Back, spécial an 2000, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Back, puisque nous sommes vendredi et que chaque vendredi, on ajuste le rétro et on met le cap sur une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, l'an 2000, marqué évidemment par l'éclatement de la bulle Internet, on va en parler, mais l'an 2000, c'est avant tout un grand cru pour la musique, puisque cette année-là, c'est cette année-là que sortait ce tube qui deviendra plus tard, à la faveur des records d'audience, l'hymne de France Inter.
Les rois du monde, vivent au sommet, ils ont la plus belle vue, meilleure mer.
Non, il n'y a pas de mer qui nous concerne.
Château.
Calmons-nous, Quentin, calmons-nous. Inoubliable extrait de la comédie musicale Roméo et Juliette qui triomphait cette année-là au Palais des Congrès. Mais Manon et Quentin étaient encore trop petits pour assister à un spectacle aussi rock'n'roll. Non, eux, en 2000, au Palais des Congrès, ils applaudissaient.
Manon, on peut le dire, là.
Mon idole.
Iconique.
Le phénomène Alizé qui déferlait sur la France en l'an 2000. Une grande année aussi pour celui qui deviendra plus tard le modèle fiscal de Quentin. Florent Pagny nous livrait cette chanson douloureuse pour Quentin qui devrait attendre encore pas mal d'années avant qu'une femme pose son regard sur lui. En l'an 2000, il tue le temps en jouant au docteur avec son copain Polo. Manon, elle, est déjà presque entrée dans la préadolescence.
Ah bah bien sûr.
Alors que Cyril, notre rédacteur en chef, est déjà presque à l'hospice où il écoute déjà avec ses copains boomers. Beautiful Day, probablement la pire chanson de YouTube après Discothèque.
Je suis pas d'accord.
Et c'est pas la peine de
l'écouter en entier tout à l'heure.
C'est pas la peine de me faire des doigts en régie de l'autre côté de la vitre. Je maintiens mes propos.
France Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Alors Gilles Babinet, vous allez nous raconter l'explosion de cette bulle Internet de l'intérieur. Juste le temps de vous présenter mes troupes, à commencer par celle qui, en l'an 2000, ne faisait pas que collectionner les Polly Pocket en écoutant Britney Spears. Elle s'intéressait déjà à la politique, n'est-ce pas Manon?
Oui, très vite fait. En 2000, Vladimir Poutine est élu pour la première fois président de la Russie. Son objectif, redonner du prestige à son pays et asseoir son autorité. 25 ans après, il est toujours là, toujours plus guerrier et encore plus répressif et dictatorial.
En l'an 2000, un hymne de boîte de nuit allait changer sa vie. Quand cette année-là, il l'entendit pour la première fois sur le dance floor du Bayocos d'Alençon.
À gauche.
Ouais. À droite.
C'est pas le meilleur moment.
Il sut immédiatement que plus tard, il ne serait ni de droite ni de gauche, mais là où ça serait nécessaire en fonction de qui était au pouvoir et si ça pouvait faire avancer sa carrière ou pas.
Oui.
Quentin, chaque vendredi, vous vous baladez dans les archives de l'INA.
Le bog de l'an 2000, l'euro de foot et le crash du Concorde. Retour en 2000 par le son dans la prochaine demi-heure.
L'euro de foot, avec le but de Wiltord.
Oui, bah, je l'ai raconté.
Avec les Italiens qui avaient ouvert le champagne.
Chut,
que de souvenirs. L'an 2000, à travers les archives sonores, mais aussi à travers ses tubes, Camille Diao nous rejoindra pour nous raconter la folle histoire, non pas derrière.
Oh. Et si tu crois que c'est fini.
Chanson qui pourtant a une sacrée histoire, puisque ça devait être un titre de Garou, mais que Céline l'a trouvé tellement dingue qu'elle s'est invitée dedans.
Il y a une meilleure histoire, c'est qu'au karaoké de France Inter, Manon m'a lâché alors qu'on devait le chanter tous les deux.
C'est une moins bonne histoire, mais c'est une histoire vraie aussi. Camille Diao, peut-être plus puriste que moi ou simplement plus snob, nous racontera l'histoire d'Angela de Sayan Supakru. Côté humour, Charles Nouveau viendra nous divertir en fin d'émission. Mais d'abord, profitons des lumières de notre invité. L'entrepreneur, co-président du Conseil national du numérique, Gilles Babinet, est avec nous pour revenir en l'an 2000 et l'éclatement de la bulle Internet. Alors déjà, Gilles, ça ressemblait quoi, Internet avant l'an 2000? Il faut quand même peut-être essayer de planter le décor pour les jeunes qui nous écoutent.
Alors, c'était à la fois une promesse absolument incroyable, c'est-à-dire tout le monde pensait que ça allait changer le monde, et en même temps, c'était horriblement lent. Je pense que c'est la caractéristique principale. On n'avait pas ce qu'on appelle l'Internet 2.0, et donc c'était des pages qui étaient extrêmement statiques. Le grand truc à l'époque, c'était l'e-commerce. On avait déjà Amazon qui existait. Les moteurs de recherche dominants, c'était des trucs que vous connaissez pas, comme AltaVista ou Yahoo. On connaît encore un peu, mais voilà. Et c'était quelque chose dans lequel il fallait encore avoir une vraie culture générale pour pouvoir naviguer.
C'était un truc de spécialiste.
C'était un truc de spécialiste.
Et comment on a pu s'emballer en valorisant des entreprises au-delà de leur valeur réelle? C'est ce qui se passe à l'époque, là, avant cette bulle.
Oui, on a des trucs complètement dingues. Des entreprises qui se mettent à valoir des prix complètement démesurés. En fait, les analystes financiers se sont dit un truc hyper simple. Se sont dit, c'est ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire que vous pouvez faire croître le nombre d'utilisateurs sans faire croître les coûts qui sont associés, et donc vous allez créer de l'économie sans inflation. Et ça, tout le monde s'est dit, mais en fait, si je tire les traits, j'ai des entreprises absolument gigantesques, et c'est un peu ce qu'on observe, mais avec 25 ans de retard aujourd'hui, sauf que ils se sont dit, ça va arriver en 2 ans. Quoi. D'ailleurs, le parallèle avec l'intelligence artificielle aujourd'hui mériterait d'être un peu fait.
Ah, vous pensez qu'on investit trop, enfin, en tout cas, on valorise trop les fameuses licornes de l'IA?
C'est certain. Il y a une bulle de malade et qui probablement soit va se dégonfler, soit va craquer, mais ça restera pas comme ça.
Et je regardais les déclarations du patron de la Fed à l'époque, la Banque Centrale Américaine, qui alertait dès 1996 sur l'exubérance irrationnelle des marchés. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas complètement aveugle à cet emballement.
Et oui, je crois que... mais alors, c'était aussi un actionnaire d'entreprises de technologie, c'est ça qui est paradoxal. Donc, quelque part, il était aussi un peu la main dans le pot de confiture. Et on voyait bien qu'il n'y avait plus aucune rationalité dans les chiffres, mais on continuait à investir.
Et ça s'est arrêté brusquement. Il est absent du tour de table le vendredi passé 17h, car son urologue lui a conseillé de s'économiser. Mais son esprit, lui, plane encore sur Zoom Zoom Zen, puisque voici YouTube. Blue Beautiful Day pour toi, Cyril. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Love is down.
broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedlam fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird of the leaving her mouth. After the flood, all the colors came.
Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom zoom back direction l'an 2000 aujourd'hui, le tube qui devait relancer YouTube, l'explosion de la bulle internet et surtout Dalida qui, quoique déjà morte, me souhaitait quand même mon anniversaire.
Il venait d'avoir 18 ans.
Et oui, en l'an 2000, contrairement au calcul de VSD pour qui j'avais déjà 32 ans, je venais seulement d'avoir 18
ans. Pas que de VSD.
Et je n'avais pas une thune. Manon ?
Oui.
Le quiz de lundi, combien de points en moins vous voulez ?
Oh, 2, ça va. Ah,
c'est vrai, 4.
2, ça sera 4. À cette époque-là, je n'avais pas une thune, contrairement à notre invité Gilles Babinet, qui lui se goinfrait avec la bulle internet. Pour se rendre compte du contexte, j'ai retrouvé le discours sur l'état de l'Union prononcé en janvier 2000 par Bill Clinton, qui se félicitait d'avoir créé une nouvelle économie. Il disait aussi que les États-Unis traversaient la plus longue période de croissance économique ininterrompue de toute leur histoire. À l'époque, il y avait une euphorie, en fait, chez tous ces entrepreneurs.
Mais tout le monde était, d'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois, hein, mais ouais. Tout le monde était complètement hypnotisé par cette technologie. Et je le redis, pensait qu'on allait avoir une nouvelle forme d'économie, de macroéconomie sans inflation. Donc il n'y avait absolument personne pour s'opposer à ça.
Et vous-même, vous vous êtes picogé?
Moi, j'étais totalement dedans. Et, d'un autre côté, si vous voulez, j'avais beaucoup de mal à comprendre quand ma société a été rachetée. On m'a proposé un prix qui ne correspondait pas à la façon naturelle de calculer la valeur d'une entreprise. J'avais beaucoup de mal à comprendre ça.
Mais vous l'avez accepté.
Mais je l'ai accepté.
Volontiers. Et après, et c'est là que vous n'avez pas compris que c'était une bulle. En tout cas, vous avez tout réinvesti dans la tech, en fait.
Exactement.
Vous n'avez pas dit, tiens, je vais en profiter.
J'ai perdu.
Pour...
Exactement. Et je crois que, voilà, ça a été une très grande leçon pour moi. Et effectivement, probablement d'ailleurs, d'essayer de faire un pas de côté quand je vois tout le monde se ruer sur quelque chose. Je crois que je l'ai fait pour les cryptos d'ailleurs, parce que je ne me suis pas retrouvé dans ce truc-là.
Ah, vous n'êtes pas sur les cryptos non plus ?
Non, je ne suis pas là-dedans.
Le premier navigateur, Netscape, rentre en bourse en 1995, Yahoo l'année suivante. Vous dites dans votre livre que dès le début des années 2000, il devint clair qu'Internet était appelé à devenir une technologie globale qui, dans le même temps, resterait authentiquement américaine. Ça veut dire quoi ?
Il y avait quand même cette idée que c'était un soft power. L'ICANN, qui est l'organisme qui gouverne un petit peu les technologies de l'Internet, était exclusivement composé d'acteurs américains. Ça créait beaucoup de récriminations de la part des autres pays. Et puis, tous les systèmes de standardisation étaient poussés par des entreprises américaines. Lorsque des entreprises tierces essayaient de le faire, en général, on faisait en sorte qu'elles soient marginalisées. Donc, c'était... D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas. Hein.
Oui.
Probablement un peu moins. Vous avez les Chinois qui prennent désormais beaucoup de place, mais la domination américaine, elle a été presque hégémonique au cours des 25 dernières années.
Et puis arrive le fameux 13 mars 2000 avec la chute de l'indice Nasdaq à la bourse de New York. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Vous êtes où ? Vous en souvenez ?
Ah oui, je m'en souviens. Je vais vous raconter pourquoi je m'en souviens hyper bien. Parce que moi, le 10 mars... J'ai fait une levée de fonds pour une entreprise, une start-up que j'avais à l'époque, avec des fonds d'investissement que je ne vais pas nommer. Et donc, le 10 mars, je lève de l'argent, je reçois cet argent sur les comptes en banque de l'entreprise. C'était à peu près, on était, je crois, est-ce qu'on était encore en francs ? Ça devait faire à peu près une dizaine de millions de francs, donc 1,5 million d'euros d'aujourd'hui. Et alors, je ne sais plus quel jour c'était, ça devait être le 14 ou le 15. J'ai un de ces investisseurs qui m'appelle et qui me dit « Tu veux pas nous rendre l'argent ?»
Oh la sueur froide.
Et là, j'appelle mon avocat qui me dit, tu sais quoi, tu vas lui expliquer qu'il fallait qu'il réfléchisse mieux avant, mais que tu ne lui rendras pas l'argent.
Bah non. Trois jours plus tôt seulement, donc avant ce 13 mars 2000, le Nasdaq avait atteint son plus haut historique. Cisco était même l'entreprise la plus valorisée au monde devant Microsoft. Tout est allé donc très vite. L'idée à l'époque, c'était de gagner de l'argent rapidement en négligeant la rentabilité des entreprises.
Mais le fait que Cisco était l'entreprise la plus valorisée, c'est hyper emblématique de ce qui se passait. C'est-à-dire que la réflexion des analystes, c'est de dire, finalement, pour faire de l'Internet, il faut du Cisco.
Et rappelons ce qu'est Cisco.
Cisco, c'est l'entreprise qui fabrique les boîtes qui connectent les câbles qui distribuent l'Internet. Donc c'est au cœur de l'infrastructure. Et donc on s'est dit, partout où il y a de l'Internet, il y a du Cisco. Donc Cisco, c'est la boîte qui vaut le plus cher au monde. En réalité, Cisco, c'est assez facile à copier la technologie qu'ils font. Et puis, vous n'avez pas ce phénomène de rendement croissant. Parce que vous êtes justement dans le monde industriel. Donc c'était assez aberrant de faire ça. Ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer une semaine. Microsoft est redevenue l'entreprise la plus valorisée assez rapidement. Mais ça montrait, je trouve que c'est très emblématique de la déraison qui s'est emparée du monde financier à cette époque.
Exceptionnellement, quand on zoome sur l'an 2000 et que le tube de Beyoncé, Crazy in Love, inoubliable générique de Tout le monde en parle, est sorti cette année-là, Quentin, je vous autorise à vous auto-lancer.
Et maintenant, j'accueille Quentin lui. Il nous vient d'Alençon après une jeunesse passée à jouer au docteur avec son copain Polo. Son hétérosexualité relève du miracle.
Quentin, je suis heureux de vous recevoir dans Tout le monde en parle. Toujours zen. Quentin, chaque vendredi, toute une année au prisme des archives de l'INA, c'est ce que vous nous proposez.
À l'heure du passage en l'an 2000, le monde entier retient son souffle à l'aube du nouveau millénaire à cause de ça.
Vous avez tous entendu parler du bug en anglais ou du bog en français. C'est une sorte de parasite informatique qui nous menace au passage de l'an 2000.
Minuit sonne, le bug de l'an 2000 n'aura pas lieu, les ordinateurs tournent, les avions volent, les ascenseurs montent et les ingénieurs respirent. En France, l'opération de prévention de ce bug aura coûté 130 milliards de francs, soit 20 milliards d'euros. Le 2 juillet 2000, finale de l'Euro de foot, l'Italie mène dans les arrêts de jeu. Ils sont debout sur le banc. Sylvain Wiltord fait se rasseoir tout le monde sur le banc. Prolongation pour but en or et à la 113e minute.
Oui, il est passé. Centre en retrait.
L'équipe de France marque une page de l'histoire après avoir été championne du monde en 98. Elle devient championne d'Europe en 2000. Jamais aucune équipe n'avait réussi cet exploit.
C'est comme un prolongement de 98. Trezeguet retire son t-shirt et le foot français est au plus haut.
Vous n'avez pas connu cette époque, vous, quand vous étiez trop petit, vous étiez en pyjama chez vous.
J'avais 9 ans.
Mais vous étiez à la maison, vous n'étiez pas dehors dans la rue à fêter ça.
J'avais un t-shirt Didac.
Non.
Un drame dans le ciel francilien, le 25 juillet 2000, c'est le crash du Concorde.
De l'accident, une épaisse fumée noire se dégage. L'appareil mythique d'Air France vient de s'écraser sur une partie d'un hôtel, juste après son décollage. Il est 16h45. Plus d'une heure après le crash, des flammes continuent de noircir la carlingue, mais aussi l'hôtel, dans lequel se trouvaient plusieurs personnes. 4 y auraient été tuées, elles s'ajoutent aux 109 victimes de l'appareil. Des moyens impressionnants ont été déployés pour ce qui restera, comme l'un des plus grands drames de l'histoire de l'aviation civile.
3 ans plus tard, le Concorde fera son dernier vol. Au total, 20 exemplaires de l'avion supersonique avaient été construits. 2000, c'est une année de sport. Les 27e Jeux Olympiques ont lieu en Australie. Rendez-vous magique s'il en est, sauf peut-être dans le clan français.
On est loin de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta où Marie-Josée Pérec, sourire radieux, tenait fièrement le drapeau tricolore. Aujourd'hui, la championne olympique se terre dans un grand hôtel de la ville réservé par son sponsor. Paradoxalement, elle se plaint de son isolement mais ne veut rien partager avec ses partenaires de l'équipe de France.
Marie-Josée Pérec, championne olympique et grande favorite du 400 mètres, quitte brusquement Sydney avant sa course, évoquant plus tard un climat hostile, des menaces et la pression liée à sa rivalité avec l'Australienne Cathy Freeman. L'opinion se divise, fuite ou détresse, on ne verra plus jamais Marie-Josée Pérec sur une piste. On se console quand même avec une légende qui fait ses derniers jeux.
David Douillet devient le judoka le plus titré de son sport. Il y laisse aussi une empreinte de poids lourd au cœur tendre.
C'était ma dernière compétition, donc... Pour moi, c'est une fin, c'est triste. Et il fallait que j'y goûte jusqu'au bout. Il fallait que je me goinfre de combat pour pouvoir être assasié, pour pouvoir partir simplement de la compétition.
Le sport est beau, la vie est belle, et en soirée, cette musique fait se lever tout le monde.
Que tous ceux qui sont dans la vibe,
lève le doigt.
Que toutes celles qui sont dans la vibe,
lève le doigt.
Ah oui.
Que ceux qui sont assis,
ah Manon, ça marche.
Si
ah oui, passion. Manon qui la met toujours en soirée.
Évidemment, ça n'a pas pris une ride, bah, bien sûr.
Ah non, pas une ride, vraiment.
Au cinéma en 2000, plus de 10 millions de Français vont voir Daniel et son taxi pour la deuxième fois. Dans le même temps, on perd Claude Sauté et un auteur aussi prolifique que populaire.
Bonjour. San Antonio a cassé sa pipe, auteur de près de 300 ouvrages vendus à 200 millions d'exemplaires. Frédéric Dard est mort d'une crise cardiaque.
En novembre, un mot inquiétant revient dans les journaux. Encéphalopathie spongiforme bovine. Ce qui pousse les Français à changer de boucherie. Crainte, suspicion, le gouvernement tente d'éteindre l'incendie.
Et on revient tout de suite maintenant vers l'hôtel Matignon, où le Premier ministre donc est en train d'expliquer le plan gouvernemental pour enrayer justement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire cette psychose provoquée par la maladie de la vache folle.
Face à une situation d'incertitude, lorsqu'existe un risque potentiel majeur pour la santé publique, toutes les décisions nécessaires à la sécurité sanitaire doivent être prises.
La voix de Lionel Jospin qui décide de supprimer les farines animales. Et puis dans cette année 2000, décidément pas comme les autres, un petit miracle venu du Nord.
C'est l'information du week-end. Dans moins de deux heures sera donné au Stade de France le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France de football. À l'affiche Calais contre Nantes, les amateurs calaisiens vont tenter de battre les professionnels du football club de Nantes, tenant du trophée.
Le 7 mai, une équipe d'intérimaires, de postiers, de profs fait chavirer la France.
Vous faites plusieurs fois le tour de la ville ?
Ouais, on se promène partout. Ouais. C'est la fête, là.
Et c'est trop cool ! On est fiers d'être Calaisiens !
Allez, Calais !
Calais, Éric Valmire, France Inter.
Calais ouvre le score, un frisson parcourt le Stade de France, le rêve est en marche. Mais à la dernière minute, sur un pénalty de Zidane, non pas Zinedine, mais Antoine, celui de Nantes, l'exploit échappe aux héros calaisiens. Entre bug annoncé et exploit qui scintille, on a tous vibré en 2000. Gilles Babinet, vous vous souvenez de la parano autour du bug de l'an 2000 ? Est-ce qu'on a bien fait de dépenser autant d'argent pour sécuriser les systèmes informatiques à l'époque ?
Je pense que les sociétés de services informatiques ont un peu exagéré, parce qu'il y avait quand même de l'argent facile à se faire, en disant à tout le monde, bah, vous savez, votre truc, il y a une chance sur deux qui plante. Et c'est assez étonnant, parce qu'à l'échelle de la planète, on a recensé vraiment très très peu d'accidents. D'une part parce que c'est pas très difficile d'identifier là où vous avez des horloges dans les codes informatiques et de les modifier. Et puis d'autre part parce que en réalité, dans beaucoup de cas, ça passait tout seul.
Et puis ça a été un week-end, donc il a fallu attendre le lundi pour savoir si retour au bureau, si tout marchait bien.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Promenade en l'an 2000, cet après-midi, le crash du Concorde, on l'a dit, puis l'éclatement de la bulle Internet. On en parle avec l'entrepreneur et coprésident du Conseil national du numérique, Gilles Babinet. Gilles, on parlait de ce 13 mars noir aux États-Unis avec l'effondrement des valeurs du numérique. Est-ce que les effets, ils ont été immédiats ou bien il a fallu attendre quelques semaines, quelques mois pour se rendre compte de ce qui venait vraiment de se passer ?
Non, je pense qu'il y a eu, dans les premières semaines, on s'est dit ça va revenir, etc. Mais au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que c'était quand même une grosse baffe. Et les gens comme moi... Moi, je croisais des copains qui me disaient « Mais pourquoi tu travailles dans l'Internet ? Va travailler ailleurs. » Et on était tous comme ça, quoi. On était un peu les mecs qui avaient fait les mauvais choix, quoi.
Vous étiez surtout super jeune, vous ?
J'avais 33 ans.
Oui, et vous aviez quoi comme formation avant ?
Moi, je suis autodidacte.
Ah oui, pas d'école de commerce.
J'ai monté ma première entreprise à 22 ans, et puis j'en ai monté quelques-unes. Voilà, ça l'histoire.
Est-ce qu'on sait combien ça a coûté, ce truc, à l'économie américaine ?
Ah ben, ça, c'était les prémices. Il faut voir que ça s'inscrit très vite dans le 11 septembre,
oui, qui arrive
la
vite
guerre
après,
avec l'Irak. Et en fait, c'est les débuts de la fin de cette période de croissance extrêmement longue dont parlait Bill Clinton. Le Nasdaq, de mémoire, est passé de 5600 points à 1800. Donc, si vous voulez, c'est une division quasi par trois. Le choc a été extrêmement brutal.
Et en France, ça a eu quel impact ?
Ça a eu un impact déjà de résonance sur les échanges avec les États-Unis. Les marchés se sont très largement affaissés. Mais il n'y avait pas cet écosystème de start-up tel qu'il existait aux États-Unis. Donc l'impact a été moindre. On l'a eu plutôt par résonance.
Et il y a eu quelques survivants, comme les mastodontes Yahoo, Amazon ou eBay. C'est vraiment les petits, les start-up qui ont vraiment morflé avec ce...
Oui. Il y a eu beaucoup de morts. Les entreprises comme Amazon, c'est une entreprise qui a mis 24 ans à gagner de l'argent. Donc structurellement, lui,
ça
il était...
Ça peut rassurer les entrepreneurs qui nous écoutent.
Exactement. Il était organisé pour... une situation de crise, en réalité, pour ce genre de choses. Yahoo, on considérait que c'était la boîte indétrônable. Tout le monde disait, c'est la boîte centrale de l'Internet, et donc, s'il y en a une qu'il faut protéger, c'est celle-ci. Mais vous en avez beaucoup qui ont disparu. Si je vous parle, par exemple, de Threecom, qui était dirigé par un Français, ça a disparu, quoi.
Et alors, il y a eu, en France, à ce moment-là, l'émergence de certains Free, Mythique ou encore Rue du Commerce. Ça date du début des années 2000, tout ça.
Oui, il y a eu des gens qui ont réussi à passer... Alors, si vous voulez, si je prends par exemple l'exemple de Mythique, Mythique, c'est Marc Simoncini. En fait, Marc Simoncini, il a vendu une boîte qui était quasiment rien, une fortune à Vivendi, dans le contexte de la bulle. Et avec cet argent-là, il est parti monter Mythique. Donc, il a fait un peu le contraire de moi. C'est-à-dire que...
c'est dommage pour vous, ça, décidément.
c'est comme ça, et tant mieux pour lui.
On a déjà écouté pas mal de tubes de l'an 2000, mais on en a oublié un. Vladimir Poutine. Manon, elle, ne l'a pas oublié. Elle nous raconte son arrivée au pouvoir dans sa rubrique Toute première fois, juste après Flavien Berger, Sillon sur France Inter. Un bien joli titre, même si, d'après Quentin, il manque quand même un mot.
De la mer.
En l'an 2000, elle ne rêvait pas de devenir journaliste, elle rêvait de devenir Hélène Segarra.
Ouais.
Ne mentez pas, j'ai eu votre père au téléphone, ouais. Je sais que c'est vrai, Manon.
Oh là là, j'ai pas trop écouté Hélène Segarra.
Comment ça? Mais vous n'avez pas eu d'enfance?
Très aimé. J'ai écouté Alizée et Laurie, laissez-moi.
Vous étiez déjà moderne. Manon, comme chaque vendredi, vous nous racontez une toute première fois marquante.
Le 1er janvier 2000, c'est la folie dans les rues du monde entier. Millions de personnes sont réunies à Times Square, à Paris, la Tour Eiffel scintille de mille feux, à Rio, un feu d'artifice illumine la plage de Copacabana au Vatican, c'est le grand jubilé de l'année 2000, mais un pays, toutefois, n'a pas le cœur aux festivités, la Russie. Car les Russes sont toujours sous le choc de l'annonce de la veille, la démission de leur président, Boris Eltsine.
Je pars. Je pars avant le terme prévu. J'ai compris que c'est nécessaire pour moi de le faire. La Russie doit rentrer dans le nouveau millénaire avec de nouveaux responsables politiques.
politique, mais...
Boris Eltsine est malade, alcoolique et ne peut plus rester président. Et il a déjà choisi qui allait prendre sa relève. Il nomme comme successeur son premier ministre, Vladimir Poutine, qui devient donc pour la première fois président du pays. Pour le moment, ce n'est que par intérim, mais de nouvelles élections présidentielles organisées le 26 mars 2000 vont venir confirmer ce choix. Poutine est élu dès le premier tour avec plus de 52% des voix. Un vrai tour de force pour cet homme qui était encore quelques mois plus tôt inconnu du grand public. Car avant d'être nommé Premier ministre en août 1999, Vladimir Poutine était surtout le directeur du FSB, l'ex-KGB, les services de renseignement russes. Un poste ultra stratégique. On est dans un contexte assez tendu puisque la Russie s'apprête à lancer une nouvelle offensive en Tchétchénie. Et tout va s'accélérer cet été-là quand la Russie est frappée par une série de 5 attentats qui font plus de 300 morts. Pour les autorités russes, les Tchétchènes sont évidemment coupables. Mais pour plusieurs observateurs indépendants, ce serait la Russie elle-même qui aurait organisé ces attentats dans le but de justifier la guerre en Tchétchénie et surtout d'établir le pouvoir du futur président du pays, Vladimir Poutine. Car après les attentats, c'est lui qui monte au créneau. En conférence de presse, sa réaction est sans appel.
S'ils sont dans un aéroport, on ira les chercher dans l'aéroport. Et s'il le faut, on ira les buter jusque dans les chiottes.
Une phrase qui dévoile le tempérament de Vladimir Poutine au monde entier, et ce n'est qu'un prémisse de ce que le pays va connaître par la suite. Quand il est élu quelques mois plus tard, Poutine est clair. Il veut rétablir l'ordre et la discipline dans son pays en instaurant ce qu'il appelle la verticale du pouvoir. En clair, il veut faire oublier les années noires de son prédécesseur, une décennie de chaos post-soviétique. Poutine veut restaurer la grandeur de la Russie. Il s'installe au Kremlin avec une feuille de route très claire. Rétablir le contrôle de l'État sur l'économie, museler les oligarques qui se sont enrichis et reprendre le contrôle des médias et venir à bout de la rébellion tchétchène. Vladimir Poutine va passer à l'action très rapidement. Il fait par exemple arrêter Mikhail Khodorkovsky, première fortune du pays, patron du groupe pétrolier Yukos, qui a eu le malheur de contester son autorité. Il est condamné à 8 ans de prison alors que lui et Poutine ont été très proches par le passé. Le président prend aussi la main mise sur les médias, notamment la télévision publique qui perd son indépendance. Il abolit l'élection au suffrage universel des gouverneurs de région qu'il nomme désormais lui-même. On est en 2005, Vladimir Poutine accorde un entretien à la télévision française et il part déjà de l'Ukraine. Sa possible intégration à l'OTAN ne plaît pas au président russe.
Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement.
On le sait, depuis, les relations entre la Russie et l'Ukraine se sont détériorées, les tensions ont explosé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et le début de la guerre dans le Donbass, 8 ans avant la guerre qu'on connaît aujourd'hui et qui a fait plus d'un million de morts des deux côtés. Pendant cette période, Vladimir Poutine a continué d'asseoir son autorité. Il s'est surtout assuré de conserver le pouvoir en contournant les lois et en changeant la constitution. Une première fois en 2008, il trouve un subterfuge en soutenant son sbire Dimitri Medvedev. Vladimir Poutine sera un temps son premier ministre avant de revenir au pouvoir en 2012 pour ne plus le lâcher. Car en 2020, Poutine fait passer un amendement qui remet à zéro le compteur de mandat présidentiel, une magouille qui lui a permis de se représenter en 2024 et surtout de pouvoir potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2036, faisant de lui l'un des hommes les plus puissants du monde.
Une magouille, c'est vous qui le dites. Je vous laisse la responsabilité de vos propos.
Je la prends, Mathieu.
Si vous voulez en savoir un peu plus, évidemment, sur la trajectoire de Poutine, il y a le livre, c'est un roman, mais c'est quand même le Mage du Kremlin, le livre de Giuliano Tamboli, qui est fabuleux. Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique, est toujours avec nous cet après-midi pour évoquer l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. J'avais noté la belle Internet. C'est pas la belle Internet, c'était la bulle Internet, mais à l'époque, on était complètement fascinés par les progrès du net. On parlait de cet effondrement des valeurs du numérique à partir de 2000. À partir de quand ça s'est redressé? Quand est-ce que c'est reparti?
Je pense que c'est assez rapidement. Moi, je vais vous dire, j'avais un baromètre, c'est les levées de fonds que je faisais à cette époque-là. Donc, j'ai fait une levée de fonds, comme je vous l'ai dit, aux alentours du 12 mars 2000, 12-13 mars 2000. J'en ai fait une deuxième très, très péniblement en janvier 2001. Mmh. Et quand je dis péniblement, c'est qu'avec des valorisations plus basses, etc., c'était vraiment à la casse. Et puis, j'en ai fait une qui était bien en 2004. Et je crois qu'en 2004, ça repartait.
Ça
a commencé à repartir. Ça a mis 4 ans, ça a mis à plat l'écosystème. ça l'a quand même un peu nettoyé. Vous aviez beaucoup de gens qui avaient quand même des business plans, des compétences qui étaient questionnables. Et je pense que depuis, il y a eu des crises. Il y a eu la crise de 2008, entre autres choses. Mais il y a eu la consolidation progressive d'un écosystème qui, aujourd'hui, malgré tout, un grand écosystème à l'échelle internationale. Je parle de la France.
C'est quoi, vous avez cette expression, vous parlez dans votre livre que je cite ici, « Hippie, Dieu et la science ont inventé Internet ». C'est quoi la magie de l'effet de réseau qui, à partir de 2007, se propage, d'après vous ?
Ah, l'effet de réseau, c'est quelque chose qui est central à l'Internet. C'est l'idée de dire que vous avez un niveau de taille critique à partir de laquelle vous êtes quasiment plus atteignable. C'est-à-dire que quand vous avez un seul ordinateur et un seul serveur, ben, c'est moins cher de faire une feuille de papier pour communiquer de l'information. Si vous avez un seul serveur qui sert à 1 million d'ordinateurs, ben, c'est moins cher de faire un site web pour communiquer de l'information. Ça, c'est un peu la description de l'effet de réseau. Et on va le pousser à une échelle absolument incroyable. Les méta-entreprises, les giga-entreprises américaines, elles profitent à plein de l'effet de réseau. On considère que elles sont quasiment indéboulonnables. C'est-à-dire que même si on les démantelait, on les coupait en morceaux, elles continueraient à exister parce qu'elles servent des millions, des milliards d'utilisateurs.
Mais c'est un peu le Far West à l'époque. Comment on entre dans ce game où c'est les plus gros, les mastodontes qui sont indéboulonnables? Comment on fait quand on est tout petit et qu'on part de pas grand-chose?
L'effet de réseau, c'est très lié à la notion de blitzscaling, c'est-à-dire c'est pas le plus innovant qui gagne, c'est celui qui lève le plus d'argent. Qui va le plus vite et qui lève le plus d'argent. Donc le bon exemple de l'effet de réseau, c'est Uber. C'est-à-dire que c'était pas la meilleure boîte pour faire du VTC, mais ils se sont adossés à un fonds japonais qui s'appelle SoftBank. Ils ont levé des milliards de dollars et ils ont littéralement tué toute tentative de concurrence. Dès qu'il y avait une entreprise qui faisait la concurrence, ils faisaient du dumping. Ils vendaient, ils offraient les voitures moins chères, ils sponsorisaient les services. Ils tuaient les concurrents et ils relevaient les prix à partir du moment où ils n'étaient plus que les seuls sur la place.
Donc eux aussi, j'imagine qu'ils n'ont pas été rentables avant très longtemps, Uber.
Uber, ça fait un an et demi qu'ils sont rentables, c'est pas très vieux. Ouais.
Effectivement. Quentin ?
La bulle Internet, l'effet de réseau, et aujourd'hui alors, qui sont nos champions français d'Internet, pour vous ?
L'entreprise dont on parle le plus, c'est Mistral, incontestablement. D'une part parce que la vitesse à laquelle elle a été capable de lever des fonds est unique dans l'histoire française, et probablement, même à une échelle internationale, c'est assez rare d'observer ce genre de choses. Et puis, c'est le seul acteur européen qui fait vraiment des LLM qui rentrent dans le classement des top 10. Il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est un peu une pépite assez unique.
Et juste une question, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un champion dans cette émission. J'ai vu que vous étiez Digital Champion. Champion auprès de la Commission européenne, ça veut dire quoi ?
En fait, la Commission, il y a une dizaine d'années, un peu plus, s'est dit, en fait, nous, on ne parle que à des États. Il faudrait quand même qu'on parle un peu à des entrepreneurs pour comprendre ce qui se passe dans chacun des pays. Et donc, ils ont nommé dans chaque pays quelqu'un qui représente un petit peu l'écosystème numérique pour avoir un peu le vibe, l'état d'esprit de chacun de ces pays.
Et c'est vous, champion
français. Moi, c'est une des expériences les plus riches que j'ai eues, c'est-à-dire de me retrouver avec des gens qui sont des entrepreneurs de tous les pays européens et de voir les différences de culture, la façon dont ils se développaient. Et ce qui me frappe d'ailleurs, c'est le fait que dans la plupart des pays européens, il n'y a pas une sorte d'infrastructure d'État. Avec la BPI, avec
qui vous guide
comme
ça.
Là-bas, les gens, il n'y a pas de subvention, les gens se débrouillent beaucoup plus eux-mêmes. Quoi.
Dans quelques instants, Charles Nouveau nous prouvera ou non qu'il ne faut pas forcément un diplôme d'HEC Paris pour parler de bulles spéculatives. Bonjour Charles.
Ambiance scolaire. En ce moment, déjà que Roland Garros, ça me donne envie de réviser comme un réflexe pavlovien. En plus, là, vous me demandez de parler d'économie devant un prof. C'est plus une chronique, c'est un oral. Et j'ai un peu la flemme de revenir faire un rattrapage en août.
Oui, ne vous inquiétez pas, on ne sera pas là. En attendant, les analyses certainement frappées au coin du bon sens du professeur Nouveau. Saluons celle qui sait vraiment de quoi elle parle. C'est d'ailleurs probablement la seule dans cette émission avec notre invité. Bonjour Camille Diao.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Camille, chaque semaine dans Rétropop, vous revenez sur une chanson qui incarne bien son époque. Et aujourd'hui, un tube de l'été.
Ça, c'est l'été 2000. Alors, je sais pas où vous étiez, moi j'étais en colonie de vacances, j'allais sur mes 10 ans et je préparais mes moves pour la boum de fin de séjour.
Angela, c'est ça.
Sayan Supakru, évidemment, qui signe là la bande-son du tout premier été du millénaire.
Alors, Camille, je suis quand même spécialiste, mais selon mes sources, ce morceau, il date pas vraiment de 2000.
Ok, j'avoue, Mathieu, j'avoue tout. J'ai triché, enfin, j'ai un tout petit peu triché. Techniquement, ce morceau, il sort fin 99, mais sous les radars, un peu noyé dans l'album, le single, lui, ressort en 2000 dans une nouvelle version taillée pour l'été. Ça a suffi pour convaincre le très tatillon Cyril Lacarrière. En même temps, qui n'a pas envie d'écouter ce refrain ? Alors vous l'aurez remarqué, c'est du créole. Et heureusement pour mes oreilles de petite fille de 10 ans, car les paroles sont très, très explicites.
Ah, mon Dieu.
Angela, je vais m'occuper de ton cas quand ton père ne sera pas là. Et encore ça, c'est vraiment la traduction très édulcorée. Toute la France se déhanchait donc sur des paroles classées X et sans forcément en avoir conscience. Un petit point quand même sur le Sayan qui, comme son nom l'indique, est un crew. 7 MC au total, il y a Vislo, Leroy, Sir Samuel, Sly ou encore Fefe. Chacun a son style, mais tous partagent une énergie débordante, un grand sens de l'humour et un goût prononcé pour la performance technique. Le Sayan, c'est du beatbox. Voilà, tout ça c'est fait avec la bouche hein, et beaucoup mieux que moi. Mais c'est aussi des flows ultra rapides. Ça c'est la performance aux Victoires de la Musique 2000. Et puis surtout, le Sayan Supakru, c'est ce mélange d'influences musicales. Alors le rap est au centre, mais rien que dans Angela, on trouve du zouk. Voilà, ça c'est le rythme typique du zouk, qu'on retrouve donc tout au long de la chanson. Mais un peu plus loin, voici venir le contretemps typique du reggae. Pa, 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 pa. Et même, attention, une touche de salsa. Le tout en un seul morceau, c'est le grand melting pot des musiques caribéennes.
Et je sens, Camille, que vous allez me dire que ce grand melting pot incarne quelque chose de l'époque.
Vous commencez à me connaître, Mathieu. En effet, les membres du Sayan Supakru sont originaires du Bénin, du Nigeria, de la Guadeloupe, du Maroc, du Congo, de la Martinique. Bref, un collectif hyper divers qui, le temps d'un été, met toute la France d'accord. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Et oui, on est tout pile 2 ans après la Coupe du Monde 98. Donc on peut voir le succès du Sayan comme une sorte de prolongement de la France Black Blanc Beurre. Mais on peut aussi le voir comme un chant du cygne. Deux événements vont bientôt marquer un tournant. D'abord le 11 septembre et puis quelques mois plus tard.
L'onde de choc Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde
21
entier.
21 avril 2002, fin de la parenthèse enchantée. Mais en l'an 2000, l'utopie d'une France unie dans sa diversité tient toujours. Le Sayan Supakru fédère et réussit au passage une petite révolution musicale. Jusqu'ici, la musique antillaise, vue de l'hexagone, c'était ça. Ou encore ça.
Il n'y a pas que la fête dans la vie.
Ah, l'inoubliable Francky.
Vas-y Francky, c'est bon. Bref, c'est au choix des paysages exotiques ou des obsédés sexuels. Alors vous me direz,
oui, c'est vrai.
Vous me direz, du sexe, il n'y a que ça dans Angela. Sauf que le Sayan Supakru a le sens de l'autodérision. En fait, il s'empare précisément de ces clichés pour mieux les détourner et pour redonner leur lettre de noblesse au rythme caribéen. 25 ans plus tard, ces mêmes rythmes, longtemps perçus à tort comme kitsch, pas très classe, trustent désormais le haut des charts français.
Will Badman en mode auto-choc.
Ça c'est le Chata de Kalash et Maureen, 50 millions d'écoutes sur Spotify pour ce morceau quand même, ça vient de la Martinique. Autre exemple, le tube qui a propulsé Théodora. Ça c'est du bouillon, ça vient de Guadeloupe. Bref, sans le succès commercial du Sayan Supakru en l'an 2000, ces sonorités-là, elles seraient peut-être pas aujourd'hui entrées dans le domaine du mainstream.
Bon allez, on va l'écouter Angela ou pas ?
Alors si vous me permettez quand même une dernière petite anecdote, elle est savoureuse. Vous vous souvenez de Dynasty, la série télé des années 80 ?
Comment l'oublier ?
Vous vous souvenez du générique ?
Oui.
Eh bien, écoutez Sly, ancien membre du Sayan, au micro du podcasteur Driver. Et voilà, c'est de là que ça vient. Quand le zouk rencontre le générique de Dynasty, c'est aussi ça, le génie du Sayan.
Et le génie de Camille Diao, merci beaucoup. Avant d'écouter un peu de zouk, comme ça, je pensais qu'on allait écouter Francky Vincent et Blanc manger coco, un titre qui me tient à cœur, que vous connaissez certainement, dont les paroles sont gratinées. Mais
le
non.
Restaurant, c'est encore mieux.
Le restaurant, c'est encore mieux. C'est vrai. Un jour on l'écoutera, mais sur France Inter, je sais pas. Sayan Supakru, Angela, c'est évidemment maintenant sur Inter.
Mwen vle santi pou a satin Se tan nou ke la demen matin
Ouais, c'est Billy quand j'mets le turbo J'adore quand tu m'dis Leroy, c'est toi l'plus beau Et des suites, j'préfère celui qui m'fait grimper au rideau A n'importe quelle heure et dans n'importe quel sujet
quo, Angela Mubbs a peur du hein hein. Contraint je suis une con. Contrainte, c'est par contre amoral qu'elle se retrouve contre un noir à lunettes. Vitolo, homme de zouk, homme de soukous. Malhonnête ce coup-ci. Oui, si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Elle est coussi, coussa la grossie. Mais je mettrai un coup à ça.
Papa ou pas là.
Tout le monde te connaît dans le quartier, fais pas style. Tu nous reconnais pas, mais celle sur qui tous les gars se retournent, une qui ne marche plus très droit.
Angela, quand ou que faire si papa en sa ça, s'en foutait, ou pas qu'à pète voix, ou qu'à continuer, et c'est ça nous aimer, bébé Angela.
Quelle que soit l'année évoquée dans cette émission, on ne peut décemment pas se quitter sans la faire commenter par Charles Nouveau, qui réussit à nous faire croire qu'il sait de quoi il parle, parfois même jusqu'à la fin de sa chronique.
Ouais, quand on m'a dit que Zoom Zoom Back serait cette semaine consacrée à l'an 2000, j'ai dit « Ah, dans mes souvenirs, 2000, c'est surtout l'euro !» Et quelqu'un a répondu « C'est vrai que la monnaie unique, ça a vraiment solidifié le marché européen. » Ouais, c'est exactement à ça que je faisais allusion, et pas à la finale contre l'Italie avec les maillots Kappa, qu'on trouvait tous trop stylés à l'époque, hein, Mathieu Noël. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on pourrait plus les assumer.
C'était
avec nos silhouettes d'aujourd'hui. C'était trop moulant, n'y pensez pas, ce ne serait pas un bon investissement. Elle était là depuis le début, la transition, Manon, pour le sujet du jour. On va parler finance, et encore une fois, passer à côté de mes véritables expertises, hein. Toujours pas de tuto soin du visage. Donc, niveau investissement, moi, ces 10 dernières années, je crois que j'ai surtout placé mon capital sur le marché des stupéfiants. Hein, pas non plus au point d'être considéré comme un magnat de l'industrie du cannabis, même si mon dealer m'appelle Warren Soufflette. Parlons finance. Parlons finance, parlons bulles. Alors, quand j'étais petit, les bulles, c'était un truc positif. Mais maintenant qu'on est adulte, on a vaguement conscience des enjeux. Ni champomis, ni bande dessinée, ni la moins charismatique des super nanas. On parle de bulles spéculatives, qui n'est pas non plus l'air qui remonte à la surface quand, dans votre café, vous trempez un spéculoos. Mais ce qui se passe quand tout le monde s'emballe autour d'un truc au point que la valeur de marché de ce truc dépasse largement sa valeur réelle avant que tout finisse irrémédiablement par s'essouffler et décevoir des millions de personnes comme la Tectonique ou Richard Gasquet. En 2000, le truc sur lequel tout le monde s'emballe, c'est Internet, la plus grosse révolution technologique depuis le stylo 4 couleurs. Tout le monde réalise que ça va tout changer, mais personne n'y comprend encore grand-chose. C'est donc une belle opportunité pour de l'esbrouf. La seule chose qui donne plus envie d'entreprendre que la cocaïne, c'est l'espoir de devenir millionnaire d'un jour à l'autre. Résultat, les gens montent des boîtes dans tous les sens et tout le monde met du bif dedans, souvent sans savoir ce que font les boîtes en question. Ce qui arrange pas mal les boîtes en question, qui pour certaines dépensent surtout l'argent cumulé dans le marketing et la pub pour pouvoir amasser encore plus d'investissements plutôt que de se demander comment elles vont devenir rentables. Heureusement, ça ne se fait plus aujourd'hui. L'attrait pour le net est tel que pour une entreprise, le simple fait de rajouter .com à son nom pouvait démultiplier son capital du jamais vu jusqu'à ce que Salma Hayek ait rajouté Pino au sien. Parce que apparemment, je vais m'embrouiller avec un milliardaire par chronique, Mathieu. Guillaume Meurice sort de ce corps. Bref, Internet en 2000, c'est le nouvel Eldorado, et comme les gens qui disent être
être ni de gauche ni de droite, c'était un peu trop beau pour être vrai. Putain, Guillaume, lâche-moi. C'est pas Cyril Lacarrière qui nous dira le contraire, lui qui ne s'est pas fait avoir par la bourse, mais qui a un temps sincèrement cru qu'il allait hériter du trône d'un pays africain. Mais si, je vous promets, j'ai un courriel de son Altesse. Là-bas, tous les souverains ont une adresse Yahoo. Aujourd'hui, on en rigole, mais ce jour-là, il était inconsolable à l'ambassade du Nigeria. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et c'est pas parce que tout le monde fait une connerie qu'il faut forcément faire la même. Une seule de ces deux phrases a été écrite par William Shakespeare. Je ne vous dis pas laquelle, comme ça, vous retiendrez les deux. L'histoire nous prouve que malheureusement, on répète souvent les mêmes erreurs. On ne sait pas encore si Cyril va à nouveau succomber à la promesse d'une couronne, mais on sait qu'il y aura d'autres bulles. Alors faites comme moi, restez dans la vôtre.
Belle conclusion, merci Charles Nouveau. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, on va méditer vos conseils. Merci Gilles Babinet de nous avoir raconté l'époque héroïque de la bulle Internet. Je rappelle votre dernier livre, Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, disponible chez Odile Jacob. Mais si j'ai bien compris, il faut même mettre toutes ses billes dans l'IA si on investit aujourd'hui. Il va peut-être y avoir une petite bulle.
Oui, l'IA c'est une technologie qui va changer le monde. Probablement la technologie mère de toutes les technologies à mon sens. Mais par contre... Il faut se souvenir d'ailleurs la phrase d'un grand icon de l'Internet qui est Bill Gates qui disait on sous-estime ce que l'on peut faire dans le long terme et on surestime ce que l'on peut faire dans le court terme. Ça s'applique très bien à l'Internet.
Essayons de retenir ça. Merci encore Gilles Babinet, merci à tous les amis, Manon, Quentin, Charles, merci à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission en régie, Alexis Lacour, Florence Zimalac, Romain Bonifaci, Gérald Darnaud, Pierre Courade et Lola Auvert. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Philippe Duclos. Lundi, on se retrouvera pour parler amitié, un vrai rendez-vous en terre inconnue pour nous. Et puis on zoomera sur le retour de Secret Story avec Christophe Beaugrand qui nous expliquera pourquoi, selon lui, la télé-réalité n'est pas morte. Zoom, zoom, zen.